Peut-être que j'aimerais trop ça. Peut-être que ça finira par se savoir, par se murmurer dans mon dos. Peut-être que je m'en ficherai. Peut-être que ça me détruira. Et si j'en parle à Thomas, peut-être qu'il ne voudra pas le faire. Peut-être qu'il voudra le faire. Est-ce que moi, je voudrais le faire avec lui? Peut-être que cette fois-ci, il ne voudra pas courir avec moi. Peut-être qu'on se quittera. Je me rends compte que de toute ma vie sexuelle, je n'ai jamais été vraiment étonnée par quelque chose. La morale érotique ambiante m'a toujours indiqué, à un degré ou à un autre, quoi faire et à quoi m'attendre. Pas aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais réagir, ni même comment il faut réagir. J'ai la tête merveilleusement vide. Et après avoir passé les derniers mois à entraîner F d'un bord de précipice à l'autre, je trouve exaltant de m'y retrouver à mon tour. Je ne sais pas si j'ai un parachute, mais je veux sauter. Je regarde F, lui et moi plus intense que jamais. Je hoche la tête et j'attends. Timide n'est pas le premier mot qui viendrait à l'esprit pour décrire l'auteur, scénariste et enseignante à l'École nationale de l'humour qui est Caroline Allard. Ce n'est pas non plus le deuxième. En fait, je pense que même en se rendant à 1000 mots, on a encore bien d'autres choses à dire d'elle. Funky, audacieuse, fraudeuse, talentueuse, bien sûr, n'en sont que quelques exemples. J'ai eu la chance de travailler avec elle à deux reprises, d'abord sur une nouvelle pour le recueil de nouvelles érotiques Travaux manuels, dirigé par Stéphane Dompierre, puis sur l'abécédaire du plaisir solitaire, réalisé à six mains avec l'auteur Louis Aymon et le dessinateur Jimmy Beaulieu. Le texte avec lequel je vous ai guiché les oreilles provient de Golden Power, sa nouvelle dans Travaux manuels. Pas besoin de vous dire que j'ai choisi un extrait, disons, relativement sage, parce que l'auteur de Pour en finir avec le sexe et des chroniques d'une mère indigne n'a pas peur de dire les choses comme elles sont, quitte à échauffer les esprits. Et ça date pas d'hier. Alors, Caroline, sans plus nous faire languir, lis-nous ce grand moment datant de 1987.
Oui, 1987. Donc, il y a 30 ans de ça, Barbara et moi étions pubères et avions les hormones dans le tapis. Et Barbara a vu la transition se faire entre « j'ai vraiment envie d'avoir un chum » et « ça y est, Barbara, il s'est passé ce que j'espérais qu'il se passe depuis si longtemps » en lettres majuscules. Cette lettre se passe avant ce moment décisif. J'étais complètement folle d'un garçon qui s'appelait Martin. J'étais folle de lui depuis que j'avais 12 ans. Et là, j'étais rendue à 15 ans, quand même 3 ans. C'est assez long pour être fou de quelqu'un dans ces âges-là. Mais Martin, c'était... J'avais quelques autres intérêts, mais Martin, c'était quand même le centre de mes intérêts. Alors, chère Barbara, je ne sais plus trop si je sors encore avec Joseph, car la semaine dernière, je l'ai juste embrassé une ou deux fois, mais il n'a pas l'air de se rendre compte qu'un mois et demi, c'est vraiment trop pour moi. Samedi dernier, Saint-Valentin, je suis allée chez Martin. Je vais tout te conter en détail. Ce soir-là, une pensée oppressante me tourmentait. Et si Martin ne voulait rien savoir de moi, je serais bientôt fixée. Moi et lui, on a été en haut, à l'étage, sur le divan, puis, comme de raison, on a commencé à s'embrasser. Et qu'il n'aille pas dire à la grosse têteuse de Martine que je lui cours après, c'est lui qui m'a demandé un bec le premier. Tout à coup, on entend un cri. « Venez-vous écouter la reprise de Casse-tête? » Réponse « Mimi, fiche-nous la paix. » C'était Mimi, son jeune frère. On est allé dans sa chambre. Là, je constate qu'il y a une faute d'orthographe et ça me frappe parce qu'il y a quand même peu de fautes d'orthographe dans ma correspondance, même en ces années-là. Alors, aller avec un R, nous sommes allés dans sa chambre comme c'est de raison. Tout à coup, on entend un cri. « Hey, un film de Woody Allen, Martin, viens voir. » Réponse « Merde, Mimi, fous-nous la paix. » Ensuite, très cher, je te conterai tous les détails érotiques en personne, même si nous n'avons pas été jusqu'au bout, comme de raison, car son petit frère mériterait un diplôme en espionnage. You see what I mean? Mais j'ai rarement tant ri. Tu me rappelleras de te raconter, car si, comme je l'imagine, tu fais encore lire ma lettre à ta mère, je ne voudrais pas qu'elle me croie nymphomane ou pire, prostituée. Oh là là. Ah, j'en ai une bonne pour toi. Notre prof de français, Philippe Richard, nous a dit qu'au Moyen Âge, quand les gentilshommes voulaient embrasser les femmes, il leur disait « Ma gente dame, puis-je embrasser le trône de votre pudeur? » Ça, c'était la bouche. Je te laisse, mon crayon surchauffe et mon cerveau aussi. Ce n'est pas souvent que je me force pour 4 pages ou presque. Tu es une des rares élues pour qui je me donne la peine. Je suis épuisée de ma fin de semaine tourmentée. À vrai dire, je suis écœurée du monde des vivants, sauf de ta gracieuse personne, bien sûr. » Voilà, c'était une lettre à Barbara parmi tant d'autres.
J'aimerais quand même, avant qu'on passe au vif du sujet, que tu nous lises aussi le poème, un poème qui m'a bouleversée. qui m'a habité, qui m'habite toujours.
Oui, alors un poème intitulé « Elle et lui », destiné à Barbara, encore une fois. Barbara qui me laissait de côté un peu pour un garçon qui s'appelait Alfred. C'était difficile à prendre, je dois dire, pour mon orgueil. Alors, je lui ai écrit un poème en l'honneur d'Alfred. Ils se sont rencontrés quand ils jouaient au haki et qu'elle se promenait dans la café. Soudain, elle reçut un haki dans le dos, propriété de ce jeune homme costaud. Elle paraissait insultée, au fond, elle était flattée, car elle avait déjà remarqué celui qu'elle jugeait digne de sa beauté. Quant à lui, ses sentiments devinrent vite plus ardents. Il engagea un médiateur, fille pas très futée d'ailleurs, et qui ne leur fut d'aucune utilité. Mais sa dulcinée refusait de lui parler car elle était trop gênée et craignait de le déranger. Las de se voir repousser, il s'est détourné au grand désespoir de la jeune fille éplorée. En tant qu'amateur d'histoires qui finissent bien, je suis sûre que ça va s'arranger, car là est leur seul destin. On se demande pourquoi j'écris pas des harlequins ou des trucs comme ça.
Hein? Je me suis demandé, en fait, à l'époque, est-ce que tu écrivais aussi déjà de la fiction ou ça tournait beaucoup autour de tes correspondances?
Non, en fait, c'était vraiment de la correspondance. Quand je disais que, d'ailleurs, que ma plume surchauffait et que mes mains avaient des crampes, j'avais plusieurs amis à qui j'écrivais beaucoup. On s'écrivait pendant les cours, on s'écrivait la fin de semaine. Barbara était avec moi en secondaire 3 après déménager, donc... c'était longue distance, on s'écrivait. J'écrivais à mon amie Caroline, j'écrivais à mon amie Josée. Donc, c'était vraiment de l'écriture quasiment à temps plein de correspondance. Puis, j'écrivais des poèmes des fois. Là, on se doute que j'en écris plus. Mais j'écrivais des poèmes, mais pas de la fiction. J'ai vraiment beaucoup écrit pour les autres. Puis, je me suis rendu compte aussi que c'est ce que j'avais continué à faire. Parce qu'en écrivant un blog... Les chroniques d'une mère indigne, c'était écrire pour d'autres aussi, pour que les autres puissent le lire immédiatement.
Donc. Et avec une rétroaction aussi.
Oui, 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 exactement.
Dans plusieurs des lettres, là, on a lu vraiment un petit extrait. Là, moi, j'ai le droit à un petit peu plus que ça.
Ben oui.
Puis y a plusieurs moments où tu dis, si tu veux en savoir plus sur ce qui s'est passé entre, bon, moi et Martin, moi et Bob, bon, tout ça, tu devras me poser les questions et je te répondrai.
Oui, oui.
Tu allais chercher, en fait, sonder l'intérêt de ton public pour lui donner
c'est vrai, t'as
ce
raison,
dont il avait
t'as
besoin.
Raison. Je lançais la ligne à l'eau et j'espérais que le poisson morde.
Pour certains, le secret sur un manuscrit en cours est essentiel à la préservation de la bulle de création. La légende veut que la compagne de l'énigmatique Régeur du Charme n'ait découvert l'existence de chaque nouveau manuscrit qu'au moment de la livraison des premiers exemplaires. Tandis que d'autres carburent aux commentaires livrés quasi en direct par leur comité de lecteurs. L'important est que ça soit un moteur et non une censure. Cela dit, avec un lecteur ou une lectrice en particulier en tête, quand on couche une histoire sur papier, on m'a souvent dit que l'élan était plus clair, plus puissant. Dans Chronique d'une mère indigne, quand tu as commencé ça, est-ce que tu t'adressais plus à toi-même ou plus aux autres mamans?
Non, mais Chronique d'une mère indigne, c'était un effort pour ne pas tomber dans un postpartum. Parce qu'avec ma première fille, ça avait été difficile. Puis avec la deuxième, je m'étais dit, je vais faire quelque chose pour moi. J'aime écrire, je vais écrire. Puis avec un peu de chance, il y a des gens qui vont venir me lire. Puis on va être un groupe de mères à échanger. Donc, c'était vraiment dans une perspective d'échange aussi. C'était une perspective littéraire, là, au sens où je voulais absolument que ça soit humoristique. Il y avait une volonté d'avoir une écriture soutenue, là, si on veut, d'un point de vue humoristique dans les chroniques d'une mère indigne. Mais c'était... pour rameuter des gens, pour me sentir moins toute seule chez nous quand la petite faisait sa sieste ou quand j'étais toute seule à la maison, au lieu de faire du ménage.
Un peu comme dans ta correspondance, en même temps, c'est aussi une façon de lever... Il n'y a pas de censure, il n'y a rien qui est à cacher. C'est ce que tu es en train de vivre, puis tu le sais que les gens qui vont te lire, qui vont réagir, vivent un peu la même chose, ou en tout cas que ça
résonne. Oui, c'est ça. Je pense que c'était ce qui était important pour moi. De peut-être aussi de juger de ce qui était normal ou pas quand j'écrivais à Barbara. que je disais, ben on s'appelle puis on en parle, c'était aussi pour, j'imagine, pour échanger sur est-ce que je fais bien les choses, est-ce que ce que je vis, c'est normal. Puis en tant que mère indigne, c'était beaucoup ça aussi, là, c'est-à-dire que je prenais les choses d'un point de vue humoristique, satirique sur moi-même, mais en quelque part, il y a l'idée... ma vie n'est pas parfaite, puis ben, je vous la soumets, puis on va pouvoir échanger là-dessus.
Mais dans ta lettre, à un moment donné, tu dis « bon, je te dirai pas ça » ou « enfin, on s'en parlera de vive voix, parce que est-ce que tu vas le faire lire à ta mère, comme dans la dernière lettre? » Est-ce que des fois, tu écris en ayant un public en tête, mais tu sais que ça se peut qu'il y ait d'autres gens que ceux à qui tu destines ce texte-là qui vont le lire? Est-ce que ça te censure? Est-ce que tu t'empêches d'écrire des affaires en disant « ouh, s'il fallait que ça tombe sur... s'il fallait que des collègues de classe de mes enfants tombent sur ce texte-là... »
Oui, bien, j'écrivais à Barbara, j'ai remarqué à quelques reprises en les relisant que je disais « lis pas ça à ta mère » ou « j'espère que ta mère va pas lire la lettre », ce qui me fait rire a posteriori parce que sa mère en avait vu d'autres. Franchement, c'était pas... c'était quelqu'un à qui on pouvait parler facilement puis auquel on pouvait se confier aussi. Mais c'est sûr que c'était des choses qui me touchaient de très, très proches.
Ouais.
Quand je suis arrivée avec Mère Indigne, ce qu'il faut dire, c'est que c'était anonyme aussi. Donc, il y avait, je pense, aussi ce désir-là. Je pense qu'il y avait une peur au début de me faire juger puis de me dire, je vais garder cette barrière de sécurité, de l'anonymat, pour pas me faire dire, t'es une mauvaise mère, ce que tu fais, c'est épouvantable. Parce que honnêtement, j'ai trouvé ça très, très difficile. Puis, quand les chroniques ont été publiées aussi, le tome 1, on a gardé des commentaires dans le livre. Parce que pour moi, c'est important de signaler que j'étais pas là pour dire quoi faire, mais qu'on était là pour échanger. Puis moi, je disais, c'est comme ça que ça se passe. Puis il y a des gens qui disaient « moi aussi », puis il y a des gens qui disaient « pas moi ». Mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. C'était un partage d'expérience. Puis effectivement, je pense que ça rendait le tout... j'avais peur de plus être anonyme, mais quand l'anonymat, c'est... disons, dissolu parce que ben, le livre était pour être publié puis j'avais envie que mon nom soit sur la couverture, j'avais fait le chemin de me dire « c'est correct, c'est quelque chose que les gens apprécient, je ne vais pas me faire taper sur les doigts ». Par contre, il y a certaines entrées où je parlais plus de ma famille élargie, tu sais, par exemple ma mère, ma belle-mère. Là, c'est complètement disparu du blog avec mon anonymat parce que je ne voulais pas... Ben, c'est ça, je ne voulais pas heurter des sensibilités parce que c'était jamais méchant, mais des fois, les gens, être méchant, ça ne dépend pas juste de moi, ça dépend comment l'autre personne va le prendre aussi. Oui, c'est ça, exactement.
Puis avec l'abécédaire du plaisir solitaire.
Oui.
Que tu as fait avec Louis Aymon,
oui.
Et avec des illustrations de Jimmy Beaulieu. Je sais qu'un des élans de départ, c'était de dire il faut donner le droit aux gens d'en parler, il faut leur donner des mots et dire que ce n'est pas un sujet à cacher. Mais un peu de ce que tu viens de me dire aussi, c'est pas j'essaye de vous prescrire ce qui devrait être dit ou ce qui peut être dit, c'est de dire on a le droit d'en parler.
Bien, en fait, c'est vraiment étrange et drôle, mais la masturbation, c'est un des sujets les plus tabous en sexualité. À un moment donné, je cherchais un livre qui parlerait de sexualité pour ma plus vieille. Elle avait 11-12 ans, elle commençait à se poser des questions. Puis, je voulais absolument qu'il y ait une partie du livre qui parle de masturbation. Puis, il y avait des livres dans lesquels le sujet était complètement absent. Puis pour moi, c'est un non-sens parce que...
Surtout si tu parles des jeunes ados.
Oui, c'est ça, exactement. Puis, il y avait des livres dans lesquels on disait des trucs du genre « Oui, la masturbation, c'est bien à l'adolescence, mais si on continue après, c'est peut-être parce qu'on manque de vie sociale. » c'est ça, j'ai 46 ans, puis je dois vraiment manquer de vie sociale. Puis effectivement, ça, je pense que c'est dans la continuité d'aborder des sujets, pas de façon pédagogique, mais juste pour ouvrir la discussion, encore une fois. Puis la sexualité, c'est drôle parce que je suis venue à parler de ça avec Mère Indigne, parce que je me suis rendu compte que quand je parlais de la sexualité des parents, les gens embarquaient beaucoup, j'avais des commentaires comme ça se pouvait pas. Je me suis rendu compte qu'on avait autant de pression à être des bons amants qu'à être des bons parents. Puis qu'on se demandait même pas si on aimait ce qu'on faisait, on demandait si on faisait ce qu'il fallait qu'on fasse.
Ouais.
Puis moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis je m'étais dit, ah tiens, il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait fait la remarque, ouais, Mère Indigne, c'est cute, là, c'est drôle, mais il faudrait que tu écrives quelque chose de plus sérieux après. Puis moi, ça, c'est le genre d'affaire qui fait que je vais faire le contraire. C'est ça qui m'a menée à écrire Pour en finir avec le sexe, qui est un livre complètement niaiseux sur la sexualité, où je règle mes comptes avec la sexualité ou avec Iris qui illustre, effectivement. Parce que à quoi bon parler de sexe sans image?
Oui, absolument. Oui. Sans image, le moins possible. Dans Golden Power, ta nouvelle dans Travaux Manuels, oui. Le recueil dirigé par Stéphane Dompierre, le recueil de nouvelles érotiques, tu mets en scène des personnages qui se mettent au défi constamment, en fait, qui disent là où ils n'iront pas.
Oui.
Et ce qui, à mesure qu'ils tracent une ligne, ça devient une obsession, en fait, principalement pour le personnage féminin, de dire, ben d'abord, c'est là qu'il faut qu'on aille.
Oui.
C'est un petit peu ce que tu viens d'écrire en même temps, de dire, si tu mets une ligne, si tu fixes mon regard dessus.
Oui, effectivement, totalement. Moi, c'est... D'ailleurs, quand tu m'as demandé de faire le podcast, tu m'as dit, comment est-ce que je devrais t'inviter? Est-ce que je devrais t'inviter en disant, Caroline, t'es la meilleure, on a absolument besoin que tu sois là? Ou si je devrais t'inviter en disant, es-tu game? Et j'ai dit, es-tu game?
Oui,
c'est ça. Donc, effectivement, Golden Power, c'était, ça part de ce que vous imaginez, là. Puis, c'était vraiment une ligne qui était repoussée. Puis, pour moi, en fait, c'est aussi de voir où est-ce qu'on se trace des lignes, puis pourquoi on se les trace. Puis, le personnage masculin traçait des lignes que le personnage féminin voulait lui faire traverser en disant « t'as pas de bonne raison de tracer une ligne là ». Puis c'était vraiment, pour moi, je pense aussi dans tout ce que j'écris, il y a cette idée-là de liberté comme mère, de pas se restreindre à qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis d'essayer de penser plus en termes de comment je vais m'épanouir, comment mon enfant va s'épanouir, comme amante aussi, comment je vais m'épanouir, pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bonne. Puis là-dedans, il y a une liberté. Puis ça, j'ai besoin vraiment de cette liberté-là. Puis je l'explore dans mon écriture beaucoup. Ouais.
Je pense que ça s'entend. Il est vraiment facile d'aborder de front avec Caroline des sujets que souvent on hésite à effleurer avec des baguettes. Elle a un genre d'influence décomplexante. C'est qu'elle fait pas de chichi autour de tout ça, que chaque thème est abordé avec un naturel léger, tout léger. Parfois, c'est en multipliant les détours et les voiles qu'on attire le mieux l'attention sur ce qu'on se refuse à nommer. J'aimerais te parler de mots crus.
Oui.
Est-ce que tu y vas drette dedans? Tournes-tu autour du trou ou t'es plus genre à y mettre le doigt?
Bien, ça dépend. Ça dépend de la personne à qui je vais m'adresser.
Mm.
Parce que... Puis aussi, quand je lisais les lettres à Barbara, je me rendais compte aussi des choses que j'écrivais que je savais qui étaient pour la faire rire. Puis je suis certaine que j'aurais pas écrit la même chose à une autre de mes amies dont j'aurais su que c'est autre chose qui était pour la faire rire. Donc, si j'écris... Par exemple, quand je travaillais avec Louis pour l'abécédaire du plaisir solitaire, c'était aussi un dialogue avec lui. Donc, ce que j'écrivais, c'était aussi pour le faire rire. Puis là, dans l'abécédaire, le niveau de langage est moins cru, je dirais. Il est plus ludique, imagé, c'est ça. Alors que dans Golden Power, c'est assez cru. On ne tourne pas autour du trou, comme tu disais. Mais pour moi, ça, c'était... Je ne sais pas pour qui je l'ai écrit, en fait, mais c'était... Je pense que c'était peut-être pour moi aussi que je l'écrivais. Puis j'avais besoin de sortir ça de cette façon-là. Il y avait une vérité là-dedans que j'atteignais en écrivant de cette façon-là. Mais je te dirais vraiment que c'est modulé par rapport à la personne à qui j'écris en l'écrivant.
Caroline m'a raconté qu'aujourd'hui, finit les crampes de poignet. Son écriture, elle l'a fait sur clavier, le stylo est réservé aux listes d'épicerie et vivent les outils qui permettent de retravailler le texte sans s'enfarger dans l'interligne. C'est pas qu'elle a renié le plaisir épistolaire, ça a juste pris une autre tournure.
Tu vois, c'est ça, j'accorde pas de valeur particulière au fait d'écrire à la main, puis ah, c'est tellement beau, envoyer une lettre. Je suis pas dans le romantisme de l'écriture.
Mais sans romantisme de l'écriture stylo, est-ce que t'entretiens quand même des correspondances ou t'es vraiment passé au mode... texto, bref du jour.
Totalement passé au mode texto, parce que...
Même pour les amis proches?
Barbara, de toute façon, c'est ça, on se parle, mais honnêtement, j'ai un fun, puis encore là, on retombe dans l'aspect ludique de la chose, à texter à ma fille avec plein de fautes d'orthographe en majuscule, mais ça devient un style.
Oui.
Mais cela dit, quand je m'assois pour écrire du texte, j'apprécie aussi énormément de pouvoir vraiment entrer dans un texte, puis puis y aller dans du gros paragraphe juteux, là aussi. Puis
le
dans...
soigner,
oui,
le
bichonner, oui, oui.
Qu'il n'y ait pas de faute dedans. Tantôt, tu relevais ton accord.
Oui,
de...
ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, ça m'étonnait de voir à quel point je ne faisais pas de faute. Ça, je pense que je n'ai pas de mérite. Là,
mais là. C'est, il y a deux réformes, ça, je pense. Hein.
Oui, c'est ça.
Allons enseigner
mais
encore l'orthographe.
Honnêtement, je pense que le fait de lire beaucoup, ça, c'est une... je trouve que mes filles lisent beaucoup moins que moi, je lisais pour toutes sortes de raisons. Je lis beaucoup moins que je lisais aussi, mais l'espèce de mémoire photographique, quand tu lis des choses, puis quand tu les réécris après, tu vois, moi, je vois la faute, j'analyse pas la faute, je la vois, c'est ça, mais dans le fait d'avoir énormément lu quand j'étais jeune, je pense que ça jouait beaucoup.
Qui t'a lu de Décomplexant? T'étais-tu plus Bukowski?
Ah, Bukowski, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais écoute, c'est drôle parce que j'ai lu quand j'avais à peu près cet âge-là, là, 14-15 ans, je suis tombée sur un roman que ma mère avait commandé de Nicole de Buron, qui écrivait de l'humour, puis c'était une femme qui écrivait des trucs du genre « qui c'est ce garçon ». Donc, elle parlait de elle comme mère, comment ses filles la déstabilisaient. Fait que c'était comme Mère indigne, dans le fond, mais c'était des romans. Puis je les ai encore dans ma bibliothèque. J'ai fait beaucoup de purges dans ma bibliothèque au fil du temps. Mais elle, je me souviens que ça m'avait marqué d'avoir une femme qui écrivait de l'humour, qui était complètement décomplexée. Donc, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencée. Je me souviens d'être tombée en bas de ma chaise en lisant du Prévert. Parce que là, vraiment, là, des poèmes qui riment pas, là, puis qui vont vraiment te chercher, là, ça m'avait vraiment impressionnée. Je pense que j'ai lu des trucs plus... disons, relevé, si on veut, à partir du début vingtaine. L'adolescence, j'avais Stephen King, mais qui est un narrateur extraordinaire, là, qui est un storyteller incroyable. Ça, j'apprécie beaucoup ça. Mais j'ai lu Albert Cohen, Belle du Seigneur, au début vingtaine. Ça m'a renversé complètement. Une vision de l'amour qui est romantique et cynique en même temps. Là, tu vois que quand tu tombes en amour, ça se dirige droit vers la catastrophe, mais c'est pas grave, tu veux y aller en courant. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Proust, incroyable aussi. J'ai lu La Recherche, j'arrête pas de le dire, puis je commence à me fatiguer moi-même. Là. J'ai lu La Recherche du temps perdu deux fois, une fois au début de la vingtaine, puis une fois à mi-trentaine, puis les deux fois, tu t'en tires des choses différentes. Oui, puis on décortique l'amour, puis on décortique les liens sociaux, les liens entre les classes, pour moi, d'une façon qui était... qui ouvre les yeux. Zola aussi, j'ai adoré pour ça aussi, donc qui est très cru en un sens.
Tout en étant retenu en termes de vocabulaire, mais en termes de façon de narrer et de ce qu'on a le droit de raconter.
Oui, effectivement. Mais c'est ça, écoute, il y en a tellement. Mais j'étais vraiment une lectrice compulsive de toutes sortes de choses. Tu sais, les Reader's Digest, là, je les passais bord en bord. Les Harlequins, ma mère avait ça. J'ai tout lu ça. J'en avais un que j'aimais beaucoup, là, comment ça s'appelait? Le baiser volé, où je me souviens plus. Mais en tout cas, il y avait une relation sexuelle dedans, puis il n'y en avait jamais dans les Harlequins. Puis celle-là, il y en avait une qui était juste comme... on la devinait parce qu'il y avait des petits points qui partaient d'une marge puis qui allaient jusqu'à l'autre. Fait que là, tu savais que la relation sexuelle était en train de se passer. Et moi, je disais ça à 15 ans et demi, là, je veux dire, je grimpais au plafond. Là. les petits points, là, ça m'est resté.
Fait que dans le non-dit, on peut en dire beaucoup aussi.
Oui, 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 absolument. Absolument, puis... Puis ça, là, l'espèce de on pourrait dire, juste vraiment évoquer des choses. Puis encore là, quand tu écris pour quelqu'un, tu sais, quand tu dis quelque chose que la personne va comprendre, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi.
Fait que t'as parlé, donc, de puberté. Bon, ça n'a pas été publié, mais tu nous en as partagé quelque chose.
Oui.
Donc, t'as parlé de premiers émois, t'as parlé de maternité. Tu as parlé de sexe de femme assumée.
Oui.
Qu'est-ce qui est la prochaine étape?
C'est une bonne question. Je pense que ça va être peut-être de parler de fantasmes, parce que je trouve que les fantasmes, c'est très scripté. Puis on a l'impression que c'est toujours la même chose, alors que les fantasmes, ça peut tellement être n'importe quoi. C'est vraiment de... Encore une fois, je pense dans la liberté de l'imagination, puis je pense que c'est vers là... peut-être comme fille de 45 ans
de se donner le droit de
que je veux aller. Oui, c'est ça. Puis quoi dans mon imaginaire est fantasmagorique, puis quoi dans le tien l'est aussi, puis toutes les possibilités sont là. Moi, c'est comme un vertige dans le fond. Je trouve qu'on peut tellement connaître plein de choses avec le biais de la sexualité. Il y a un vertige là-dedans, puis pour moi, c'est comme une planète que ça tente de découvrir. Puis je trouve qu'on reste vraiment beaucoup dans le même quartier. Puis tu sais, j'aimerais ça prendre l'avion, puis ou tu sais, faire du trekking. Ouais, c'est ça, exactement.
Ça, c'est une fille qui vous donne le droit. Si vous hésitiez à vous lancer dans un projet d'écriture un peu fou, un peu osé, qui révèle une part de vos fantasmes, érotique ou pas, eh bien, comme dirait Gérard, voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie.
Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi.
Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez entendu des extraits de la correspondance entre Caroline Allard et sa copine Barbara, œuvre inédite à ce jour. Pour en savoir plus sur ses projets publiés aux éditions Québec-Amérique, il vous faudra consulter sa fiche d'auteur sur le site québec-amérique.com. À la production et à la technique, mon collègue Philippe Collard. À l'animation, Myriam Caron-Belzil. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Adriana Crickle. En prime, un court extrait de Voici les clés, classique de Gérard Lenormand. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public dans notre café littéraire, chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Consultez la page du café sur Facebook pour connaître la date et le thème de notre prochain épisode. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un commentaire sur iTunes.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bon, moi j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont des 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!